Je disais donc qu'il est obligatoire de se suffire du Coran et de la Sunna et de s'en contenter, car ils contiennent tout le bien, du fait qu'ils émanent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celui qui a la science parfaite et la sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, a donc voulu citer ce chapitre afin d'appuyer sur ce principe qui est de se suffire des textes du Coran et de la Sunna. Et cela, dans deux choses. Dans les informations, tout ce qui est relatif notamment à la croyance en l'invisible, la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala, la croyance au jour dernier, et tout ce qui s'y passera, la croyance au nom et à ses attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la croyance aux piliers de la foi, les anges, les livres, les prophètes, le jour dernier, le destin, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils paraissent bons, du moins ou mauvais. Et dans toutes ces choses-là, on se contente des textes du Coran et de la Sunna, c'est un devoir. On n'a pas besoin de s'appuyer sur autre chose que cela, car ce sont des choses qui relèvent de l'invisible et l'on ne peut les connaître que si Allah nous en donne des informations, subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose où il faut se contenter du Coran et de la Sunna, ce sont les règles, le halal et le haram, ce qui est licite et ce qui est illicite. Dans ces choses-là, les textes sont révélés par Allah subhanahu wa ta'ala pour nous clarifier ce qui nous est autorisé et ce qui nous est interdit. Et quand on dit qu'il faut, quand l'auteur dit du moins, qu'il faut se suffire des textes du Coran et de la Sunna et délaisser autre que les textes du Coran et la Sunna implique deux choses ou comprend deux choses. La première, ce sont les livres ayant été révélés précédant la révélation du Coran, tels que la Torah, l'Injil, la Torah, l'Évangile, qui sont des livres ayant été révélés par Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est qu'ils ont été abrogés dès lors que le Coran a été révélé. Il est donc un devoir de se contenter du Coran et délaisser les autres livres l'ayant précédé, du fait qu'ils ont été abrogés par le Coran et du fait également qu'ils ont été falsifiés. Et même s'ils n'étaient pas falsifiés, nous dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah, il aurait tout de même fallu se contenter du Coran car il a abrogé les livres l'ayant précédé. La deuxième chose, quand on parle de autre que le Coran et la Sunna, après avoir parlé des livres l'ayant précédé, on parle des livres, des écrits dont les auteurs sont des gens parmi les gens de, que ce soit, alaykoum salam, des gens qui prétendent le savoir ou autres, des penseurs, des gens qui se disent cultivés, qui se disent connaisseurs, ou alors des pensées qui viennent de personnes, tout cela on le délaisse quand on parle des informations dont on a besoin dans notre religion et des règles relatives au licite et à l'illicite pour se cramponner au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimahullah, a dit wa qawlu Allah ta'ala وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, dans le sens du verset, et nous avons fait descendre vers toi le livre comme éclaircissement de toutes choses. Voilà comment a été décrit le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, a dit أي القرآن والسنة, c'est-à-dire qu'il s'agit du Coran et de la Sunna. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أن القرآن كلام الله منزل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية فهو لم يقول ما خلقنا لك الكتاب بل قال ونزلنا عليك الكتاب يعني القرآن. Le message dans ce verset, s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il implique que le Coran est la parole d'Allah révélée. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa nazzalna alayka al-kitab » et nous avons fait descendre vers toi le livre. Ainsi le livre est descendu, il émane d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il est donc incréé, mais c'est sa parole qui a été révélée par Allah. Si le Coran a été décrit par Allah azza wa jal comme étant un éclaircissement de toute chose, cela sous-entend qu'il faut se contenter du Coran, car toutes les choses dont nous avons besoin ont été éclairées par le Coran et la Sunna. Si elles ont été éclairées par le Coran ainsi que la Sunna, nous n'avons donc plus besoin d'autre chose que cela. Ainsi, l'on voit avec ce verset l'obligation de se contenter du Coran. Et il faut savoir que la cause de la division de cette communauté et de son suivi des égarements revient au fait qu'ils ne se sont justement pas contentés du Coran et de la Sunna. Quand la communauté se contentait du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient dans le bien, ils étaient unis. Il y avait entre eux la cohésion, ils étaient en accord, ils étaient sur la même longueur d'onde, ils cheminaient sur la même voie, ils étaient frères, forts. Dès lors que les musulmans se sont mis à lire les autres écrits, les autres livres, des livres écrits par des différentes personnes qui se déclarent comme étant des penseurs ou autres, des gens qui se basent sur le raisonnement ou sur les analogies dans le domaine de la croyance ou autre, les musulmans se sont égarés. Et à la base, l'égarement des gens dans cette communauté revient à plusieurs points, parmi lesquels nous en citerons trois. Le premier, c'est le fait que les gens se sont basés pour affirmer ou infirmer une chose, pour affirmer la vérité et la confirmer, ou pour la déclarer nulle ou caduque, ils se sont basés sur la raison. Et ils ont délaissé les informations divines venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que l'on appelle al-falsafa, la philosophie. Lorsque les livres de philosophie grecque ont été traduits en langue arabe et que certains des musulmans se sont mis, comme on peut le dire, à jeter un coup d'œil dans ces livres, que ce soit par curiosité ou autre, qu'ont-ils fait? Ils sont tombés dans ces questions, cette grande série, ce grand nombre de questions auxquelles il n'y a jamais de réponse. C'est comme ça que se résume la philosophie. Poser des questions les unes après les autres, sans jamais répondre comme il se doit, car on ne s'appuie pas sur les textes. Comment va-t-on répondre quand on parle d'Allah tabaraka wa ta'ala, quand on parle des noms et attributs d'Allah que l'on ne voit pas, quand on parle du jour dernier, quand on parle des anges, des livres, des messagers, du qadar, des choses que l'on ne peut pas percevoir ni voir? Comment va-t-on atteindre la guidée si l'on se base sur le raisonnement? Et c'est à cause de cela que les différentes sectes ont pris naissance dans la communauté de l'islam, puisqu'ils se sont basés sur le raisonnement. Mais le raisonnement des uns étant différent au raisonnement des autres, chacun a suivi les règles qu'il s'est fixées d'après son raisonnement. Et alors chaque groupe va naître avec un mentor, avec un guide spirituel qui va instaurer des outils scientifiques, des fondements dans la pensée, en dehors du Coran et de la Sunna, qui vont faire que ces gens-là, pour affirmer ou non des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont se baser sur leur raisonnement. Dès lors que le raisonnement peut entendre une chose, peut l'accepter d'après eux, ils acceptent. Dès lors que leur raisonnement ne l'accepte pas, ils la rejettent. ou alors il la falsifie et lui donne un autre sens. Et c'est là que les gens de l'innovation ont pris naissance à cause de la philosophie qui est un véritable poison. La deuxième chose, ضَعْفُ الْعِلْمِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, c'est la faiblesse de la connaissance du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. C'est-à-dire que des gens ne comprenant pas le but du Coran et de la sunna et qui n'en perçoivent pas les sens puisqu'ils n'ont pas les outils scientifiques, leur parcours n'est pas celui d'un talib ilm, alim, d'un étudiant en sciences, d'un savant, shar'i, fil ilm shar'i, dans la science religieuse. Étant donné qu'ils ont une faiblesse de compréhension du livre de la sunna, ils en ont déduit que le Coran et la sunna ne sont pas suffisants. Comme on l'entend à cette époque qui est la nôtre, ils ne sont pas suffisants dans notre époque. Ils ne sont pas suffisants dans cette ère que nous vivons. Ils ne sont pas suffisants dans le monde du développement, dans le monde de l'évolution, dans le monde de l'innovation, dans le monde du changement. Ces textes ne concernent que des peuples anciens. Ainsi, l'on ne peut les appliquer à notre époque, à tel endroit, et j'en passe. La réalité, c'est que ces gens-là ne tiennent ces propos qu'à cause de leur incompréhension du Coran et de la Sunna, qu'à cause de leur méconnaissance de la science profonde contenue dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il en est ainsi, car Allah a voilé leur cœur du fait qu'ils s'en sont détournés. Et quand une personne se détourne du livre d'Allah, Azza wa Jal, et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne peut pas les comprendre. Quand elle ne peut pas les comprendre, au lieu d'accuser son raisonnement malsain, son incompréhension et sa méconnaissance, du fait qu'elle se sent cultivée, intelligente, surtout quand l'on parle de gens qui ont étudié les sciences profanes et qui peut-être ont brillé dans ces sciences, ils arrivent dans le monde religieux avec leur bagage scientifique mondain relatif aux sciences profanes et ils veulent appliquer dans les sciences de la religion ce qu'ils ont appris à la faculté, à l'université, dans tel et tel domaine, alors que c'est totalement différent. Et c'est là que les gens vont s'égarer. Et ils vont délaisser le Coran et la Sunna et se diriger vers autre. Car ils vont se dire, nous sommes intelligents, nous sommes. J'ai discuté un jour avec une personne, il n'y a pas si longtemps que ça, qui me parlait et me questionnait sur le domaine du Qadr, al-Iman ou bil-Qadr, la foi au destin. Cette personne m'a dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous informe que tout a été décrété par Allah. À quoi sert alors d'agir? Je lui ai répondu, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont posé la même question au messager alayhi salatu wassalam et lui ont dit, devons-nous alors délaisser les actions et nous appuyer sur ce qui a été décrété nous concernant? Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit, là, non, i'malou, œuvrez plutôt, car chacun sera ensuite dirigé vers ce en vue de quoi il a été créé. Lorsque les compagnons ont entendu ces propos, ils ont cessé la question et ils se sont soumis et ils ont appliqué. Cette personne m'a ensuite dit, certes, mais Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné une réflexion, une intelligence. C'est cette intelligence que nous devons utiliser. Je lui ai répondu, effectivement, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné le raisonnement, nous a donné l'intelligence humaine par laquelle nous avons la faculté de distinguer le bon du mauvais notamment, et d'autres choses encore, ce qui nous plaît comme ce qui nous déplaît, et cette intelligence dont nous avons besoin pour comprendre les choses. Nul doute sur cela. Cependant, tout comme Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde parfois la force physique, mais cette force physique, on ne peut pas l'utiliser comme bon nous semble. On ne peut pas utiliser cette force physique qu'Allah nous a donnée pour opprimer le faible et lui piller ses biens. N'est-ce pas? Cette force physique qu'Allah nous a donnée va être louable dès lors qu'elle va être utilisée dans ce qui plaît à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il en est de même pour cette intelligence et ce raisonnement qu'Allah nous a donné. Cette intelligence et ce raisonnement qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné seront louables dès lors qu'ils seront soumis au texte, dès lors qu'ils seront utilisés pour comprendre ce qu'Allah a voulu de nous. Mais dès que ces facultés de raisonner et de réfléchir vont être utilisées pour monter au-dessus du Coran et lui donner des sens qui ne sont pas les leurs, à ce moment-là, cette intelligence n'a aucune valeur chez Allah, tabaraka wa ta'ala, car elle n'a pas été utilisée à bon escient. Et il en est de même pour tous les bienfaits par lesquels Allah nous comble. Il nous demande de les utiliser dans son obéissance. Subhanahu wa ta'ala. Il me dit que nous savons lire, nous avons appris à lire, appris à écrire. Il y a l'intelligence. Certes, il y a tout cela. Mais n'oublie pas, je lui ai dit, que ton prophète, alayhi salatu wa salam, ne savait ni lire ni écrire. Et que le peuple auquel il a été envoyé en majeure partie était un peuple d'illettrés. Ça n'a pas pourtant empêché ces gens-là d'être l'élite, les guides de cette communauté. Ceux qui ont été la cause par laquelle cette communauté a brillé, n'est-ce pas? Donc l'affaire n'est pas rattachée au raisonnement, à la lecture, à l'écriture, qui sont des choses tout à fait louables et que l'on encourage à avoir, mais ça ne se résume pas à cela. Ce qui est voulu au final, c'est de comprendre les textes du Coran et de la Sunna. Combien dans cette époque qui est la nôtre ont prétendu briller dans les sciences? Ils sont peut-être même des professeurs dans tel et tel domaine de la science mondaine. On les montre du doigt comme des guides de la communauté, et ce sont pourtant ces mêmes personnes qui, à la fin, se présentent à la communauté pour leur demander pardon de les avoir trahis car ils ont commis tel et tel péché. Allahu Akbar. Tayyib. La troisième chose, c'est tahrif al-shari'a. C'est la déformation de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'on déforme, lorsque l'on falsifie la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'on va se diriger vers autre que le livre et la sunna. Le résultat sera la division de la communauté, l'égarement de ses membres. Ainsi, l'on voit que quand on se contente du Coran et de la sunna, il y a union et entente dans la communauté. Dès lors que l'on se détourne pour une de ces raisons ou autre du Coran et de la sunna, le mal atteint la communauté. Et sachez que beaucoup fournissent un nombre étonnant d'efforts afin justement de vous faire dévier de ce Coran et de cette sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Wallahu al-musta'an. L'auteur a dit, rawa an-nasa'i wa ghayruhu 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu ra'a fi yadi 'Umar ibn al-Khattab waraqatan min at-Tawrah fa qala amutahawwikuna ya ibn al-Khattab لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. L'imam al-Nasa'i et autres rapportent du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a vu le compagnon Omar ibn Khattab lire des feuillets de la Torah, donc des feuillets de livres anciens, ayant précédé le Coran. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, « Amutahawwikuna ibn al-Khattab, ay amutahayyirun. Êtes-vous dans le doute? Êtes-vous perplexe? Êtes-vous dans l'incertitude, ô ibn al-Khattab? » Pourquoi est-ce que le prophète lui dit cela? Parce qu'il le voit lire des feuillets anciens, de livres ayant précédé le Coran. Le Coran contient tout ce dont on a besoin. Il rejette tout le faux dont on n'a pas besoin et tout le mal. L'ayant vu lire ces livres, il a attiré son attention en lui disant « Êtes-vous dans l'incertitude ?» C'est-à-dire de telle sorte à ce que vous éprouviez le besoin de lire autre que le Coran. Le Coran ne vous suffit pas. Et il y a ici une grande faïda, une grande leçon. C'est que quand on lit les livres contenant notamment l'égarement, les livres de l'innovation, dans la croyance, dans l'adoration ou autre, quand on lit et on prête l'oreille aux passions, aux innovations, aux égarements et autres, cela nous plonge dans l'incertitude. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs, les salafs, mettaient en garde contre le fait de lire les livres des gens de l'innovation, notamment, ou les livres contenant l'égarement. Pourquoi ? De peur que les gens qui lisent ces livres ne tombent dans l'égarement, car les ambiguïtés, elles sont subtiles. La personne qui n'a pas un niveau de connaissance nécessaire pour, ne peut pas lire ce genre de livre, parce qu'elle va trouver des choses qui lui seront présentées comme des choses basées sur des preuves du Coran et de la Sunna, par exemple. Comment va-t-elle répondre ? Des doutes vont lui être mis dans la tête. Comment cette personne va répondre si elle n'a pas d'argument ? Puis tu vois cette même personne te dire « Finalement, j'ai écouté et je ne trouve aucun mal. » Et il dit des choses qui sont correctes, il parle de la bonne façon, mais qu'est-ce que tu connais ? Quels sont les outils scientifiques te permettant de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais, la guidée de l'égarement, la sunna de l'innovation, le tawhid du shirk ? Quels sont les outils que tu as te permettant de le faire ? Et pourquoi est-ce que quand on est dans un autre domaine scientifique profane, tu ne fais pas la même chose ? Quand tu parles de médecine, tu ne dis pas « il m'a parlé, il m'a dit que des bonnes choses ». Mais tu t'arrêtes et tu dis « je ne sais pas ». Ce n'est pas mon domaine, je ne peux pas connaître, je ne peux donc pas m'exprimer. Mais dès lors qu'on est dans la religion, il est possible de dire, il parle bien, il dit des bonnes choses, ce n'est pas de cette façon qu'on agit. Ainsi, Omar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, êtes-vous dans l'incertitude? Je suis certes venu avec elle, blanche, d'un blanc éclatant, avec elle, c'est-à-dire la voie droite. Je voulais amener d'une blancheur éclatante. Et si Moussa était vivant, et si vous l'aviez suivi, et vous m'aviez en me délaissant, vous vous serez égaré. Dans l'autre version, si Moussa était vivant, il n'aurait pu que me suivre. Moussa alayhi salam. Omar radiallahu anhu a dit, j'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Mohammed comme prophète. C'est-à-dire la soumission sans pareil. J'agrée, j'accepte. Il n'a pas dit nous sommes intelligents, Allah nous a donné la faculté de réfléchir, parce que là, il y a une question de soumission. La soumission ne se réfléchit pas. Nous sommes créés pour nous soumettre à Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est dans d'autres choses qu'il faut réfléchir. Ainsi, Omar s'est soumis, radiyallahu ta'ala, anhu. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, il nous dit que, non, je vais lire, « يَقُولُ لِأُمَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا وَاتَّبَعْتُمُوهُ مَعَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِيمُهُ » Moussa est le messager d'Allah, à qui Allah a adressé la parole. Ce n'est pas n'importe quel messager parmi les prophètes et messagers. Mais son moment s'est interrompu. Son moment de prophétie, il s'est arrêté. Si vous l'aviez suivi après l'envoi de Mohammed, vous seriez égaré. Subhanallah, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. Ils s'égarent alors qu'ils suivent un prophète. Ils s'égarent alors qu'ils suivent un messager. Pourquoi ? وجاءت فترة رسول آخر وهو محمد صلى الله عليه وسلم. Car son moment de prophétie a été interrompu, il s'est arrêté. Maintenant, c'est la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il faut prendre en compte dans l'application ou non de, des ordres. Et l'homme tourne avec l'ordre d'Allah où qu'il se trouve. Les législations précédentes ont été abrogées par celles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc impératif et obligatoire d'agir selon l'abrogeant, non pas selon l'abrogé. De mettre en pratique le Coran, la législation d'Allah, du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et délaisser les autres. Et il nous donne un exemple. Autrefois, les musulmans priaient en direction de Jérusalem, non pas en direction de la Kaaba, là, se trouvant à la Mecque actuellement. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a révélé l'ordre de changer la direction de la prière pour se tourner vers la Kaaba. Le cheikh a dit, si quelqu'un aujourd'hui voudrait dire, je prie en direction de Jérusalem, car cela a été révélé par Allah, la réponse aura été, ta prière est nulle, elle n'est pas acceptée. Parce que par la suite, Allah Azza wa Jal a abrogé cet ordre de prier vers Jérusalem et a légiféré et prescrit la prière en direction de la Kaaba. Si tu agis selon ce qui a été abrogé, ton action n'est pas valable. Et ce qu'il faut, c'est suivre l'ordre d'Allah où qu'il se trouve. Il en est de même pour les religions, pour les législations ayant précédé celle de Muhammad alayhi salatu wassalam. On ne doit donc pas dire « j'agis d'après Taurah » ou « j'agis d'après Al-Injil » qui sont ces deux livres ayant précédé le Coran. Mais l'on doit suivre le Coran et s'en contenter. Et si Moussa était vivant alayhi salam, il aurait suivi le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Plus encore, Isa alayhi salam, vous savez tous qu'il n'est pas mort. Il a été élevé vivant par Allah Azza wa Jal, il habite le deuxième ciel. Il va redescendre vers la fin des temps pour établir l'islam et faire d'autres choses. Quand Isa alayhi salam va descendre, va-t-il descendre en tant que prophète et messager? La réponse est non. Il va descendre en tant que suiveur du dernier messager. C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il va d'ailleurs abroger ou éliminer les pratiques qu'on lui a imputées, dans le christianisme notamment. Et vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, lors du voyage nocturne, a prié et il a dirigé une prière de deux rak'a, derrière lesquelles tous les prophètes, parmi lesquels Isa alayhi salam. Et le sahabi, le compagnon, a été défini comme étant celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur cette foi. Pour cela, les savants posent la question et disent, il y a un homme, si on peut le dire de cette façon, parmi les compagnons, ou un homme de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est meilleur que Abu Bakr. Qui est-il? La réponse, c'est Isa alayhi salam, parce qu'il l'a rencontré lors du voyage nocturne. Donc il est de sa communauté. Il le suit, il croit en lui. Vous pourrez poser cette question à ceux qui vous entourent, Inch'Allah. Omar radiyallahu anhu a dit, j'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, Mohammed comme prophète. Et c'est le devoir qui incombe aux musulmans, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. أن الإنسان إذا تبين له الحق ألا يجادل فيه ولا يباطل فهذا عمر رضي الله عنه كان يدور مع الحق فهو ظن أن هذه الورقة من التوراة فيها حق فأعجبته ولكن لما بين له الرسول صلى الله عليه وسلم هذا البيان اقتنع فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. عمر a cheminé avec la vérité dès lors qu'elle est apparue à lui. Il pensait que les feuillets qu'il lisait contenaient une partie de vérité et ces feuillets lui ont plu. Mais quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a clarifié la situation, il a été convaincu et il s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'homme qui voit la vérité apparaître clairement et qui ne la suit pas, son cœur dévie. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Subhanallah. Dans le sens du verset. Et nous détournons leur cœur et leur vue du fait qu'ils n'ont pas cru la première fois et nous les laissons aveuglés dans leur transgression. Le Cheikh a dit فهذا فيه بطلان اتباع غير القرآن من الكتب السابقة لأنها منسوخة بالقرآن. Cela montre la caducité du suivi des livres autres que le Coran, car ils ont été abrogés. Après cela, l'auteur rahimahullah dit باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام. Chapitre concernant la sortie de l'appellation islamique. La sortie de l'appellation islamique, plusieurs choses sont voulues par l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Les musulmans adhèrent à un dogme et une croyance. C'est cette croyance qui les a réunis. C'est cette croyance qui ne cesse de les unir. La croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils paraissent bons ou qu'ils paraissent mauvais. Et Allah Azza wa Jal nous a appelés al-muslimoun, les musulmans, ibadullah, ibadur rahman, les serviteurs d'Allah, les serviteurs du tout miséricordieux, al-mu'minoun, les croyants, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi. Ce sont les appellations qu'Allah nous a données, subhanahu wa ta'ala. Dès lors que l'on va se donner une appellation qui n'est pas légiférée par Allah, subhanahu wa ta'ala, que ce soit une appellation qui fait référence à une idéologie, à un groupe de personnes, à un homme, à une pensée, à une méthode de jurisprudence, un madhab, à un pays, à une origine, à une culture, et que l'on va utiliser ces choses-là justement pour se distinguer de l'autre, alors on sort de l'appellation islamique. L'auteur veut mettre en garde contre cela. Car nous sommes des musulmans, et nous devons adhérer à la croyance enseignée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les musulmans, dans les premiers temps, ne s'appelaient pas autrement que les musulmans, les croyants, les serviteurs d'Allah. Et c'était très bien comme cela. Ils adoraient Allah, Azza wa Jal, ils suivaient le prophète, alayhi salatu wa salam, et il y avait le tawhid ou le shirk. De manière claire, il y avait le polythéisme ou l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'unicité d'Allah ou la mécréance. Puis les hypocrites sont arrivés. Ils ont fait mine d'embrasser l'islam alors qu'en réalité leur cœur contenait la mécréance. Et plus tard, des groupes ont pris naissance dans la communauté. Ils se sont référés à une personne, à une pensée, à un groupe, à une idéologie, à des fondements. Ils se sont donné des appellations et tout cela a semé la division dans la communauté. Une division qui n'était pas connue des sahaba, radiyallahu anhum, qui n'était pas connue des pieux prédécesseurs qui doivent être nos modèles que nous devons suivre. Ainsi, les gens se sont divisés. Et lorsque l'on sort de l'appellation islamique, on s'égare. Ainsi, l'auteur, rahimahullah, a cité pour cette raison notamment ce chapitre. Et pour une autre raison, le Cheikh Salah al-Fawzan dit « هذا الباب فيه أن هناك من يتسمى بالإسلام » ولكنه يخرج منه بسبب أنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فيظن أنه مسلم وهو غير مسلم. Ce chapitre est mentionné par l'auteur concernant ceux qui se donnent l'appellation de l'islam mais qui en sortent du fait qu'ils ont commis un annulatif de l'islam tout en pensant qu'ils sont toujours dans l'islam alors qu'ils ne le sont plus. Allahu Akbar. Donc, on voit l'importance de l'appellation de l'islam et aussi d'appliquer le sens de l'islam et de prendre garde à ce qui nous fait sortir de cette appellation qu'Allah nous a donnée. Subhanahu wa ta'ala. Il nous donne en exemple la personne qui témoigne que nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah et que Muhammad est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne qui accomplit la prière et qui jeûne. Cette personne est musulmane, n'est-ce pas? Mais si elle invoque un autre qu'Allah, si elle demande le secours ou elle immole, elle sacrifie pour un autre qu'Allah, cette personne aura alors commis le polythéisme et elle sortira de l'islam. Elle sortira de cette appellation qu'Allah lui a donnée et légiférée, subhanahu wa ta'ala. Car l'islam, c'est la soumission à Allah à travers l'application du tawhid, de l'unicité d'Allah dans l'adoration et la soumission à lui, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si la personne commet un acte ou prononce une parole qui contredit le fondement de la croyance islamique, cette personne ne pourrait être musulmane, même si elle s'attribue ou elle se réclame de l'islam. Et cela arrive très souvent, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. Pour cela, le musulman doit prendre garde et apprendre qu'est-ce que le véritable islam et quels en sont les annulatifs qui le pervertissent et qui font que la personne en sort. Car si la personne ignore ces choses-là, elle risque de sortir de l'islam sans s'en rendre compte. Et Allah Azza wa Jalla a dit « أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ » Vos œuvres deviendraient vaines sans que vous ne vous en rendiez compte. Donc il est possible de voir ces œuvres vaines sans que l'on s'en rende compte. Le Cheikh a cité la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc l'auteur a cité wa qawluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Il a cité une partie du verset, c'est la partie témoin, c'est-à-dire la partie qui concerne l'objet de notre recherche. Et le Cheikh Al-Fawzan a cité l'entièreté du verset. Allah Azza wa Jalla a dit huwa jitabakum wa ma ja'ala 'alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas. Dans sourate Al-Hajj, le verset 78, dans le sens rapproché du verset. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché: c'est lui qui vous a élu et il ne vous a pas mis de contraintes dans votre religion. C'est la voie et religion de votre père Ibrahim. Il vous a appelé les musulmans. Il vous a nommé musulmans avant, jusqu'à la fin du verset. Ainsi, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a appelés musulmans. Il ne nous a pas appelés Ash'ari, Maturidi. Il ne nous a pas appelés Soufi. Il ne nous a pas appelés Tijani. Il ne nous a pas appelés Qadiri. Il ne nous a pas appelés Naqshbandi. Il ne nous a pas appelés Burhani. Il ne nous a pas appelés Jishti. Tout ce que vous entendez sont les noms des différentes voies du soufisme suivies dans le monde aujourd'hui par ceux qui s'attribuent à l'islam. Ces appellations ont divisé les gens. Et elles n'ont pas été légiférées par Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne nous a pas appelés ikhwan muslimoun, les frères musulmans. Il ne nous a pas appelés jama'atu tablir, le groupe du tablir. Il ne nous a pas appelés telle et telle et telle appellation, al-ahbash. Il ne nous a pas appelés shi'a, les chiites. Il ne nous a pas appelés rafida, subhanahu wa ta'ala. Il ne nous a pas donné ces appellations. Nous sommes des musulmans, l'islam a des fondements qui sont dans le livre et la sunna. Celui qui les applique est le musulman qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui les délaisse, en fonction de ce qu'il a délaissé, encourt soit la mécréance, soit l'innovation, soit la perversité. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est ça qu'il faut retenir. L'appellation qu'Allah nous a donnée, c'est Al-Muslimoun, les musulmans. Al-Mu'minoun, les croyants. Ibadur Rahman, Ibadullah, les serviteurs d'Allah, les serviteurs du Tout Miséricordieux. Et quand les salafs salih ont commencé à voir les innovations et ambiguïtés arriver dans la communauté, ils ont répondu d'époque en époque, en écrivant des livres de croyances qui clarifient sans équivoque la croyance de l'islam, l'islam originel. Puis, le groupe d'innovation ou les groupes d'innovation ayant augmenté, chacun se donnant une appellation et prétendant être dans la vraie et la bonne compréhension de l'islam, eh bien, les gens de la sunna ont dû se distinguer d'eux. Car si aujourd'hui le chiite dit « je suis musulman » et mes sources sont le Coran et la voix de Mohammed, alayhi salatu wassalam, puis un soufi s'assoit à côté de toi, juste à côté du chiite, il te dit « je suis musulman, mes sources sont le Coran et la sunna de Mohammed, alayhi salatu wassalam ». Puis un khariji te dit « je suis musulman » et nous combattons, nous tuons, et etc. pour défendre le Coran et la sunna. Puis le frère musulman s'assit et te dit « nous sommes musulmans, nous suivons le Coran et la sunna ». Puis le tablighi te dit la même chose, et j'en passe. Là, il y a un gros problème pour la communauté. Ce problème, c'est que les gens ne vont plus distinguer. Et il faut absolument distinguer le vrai du faux. Il faut absolument que les gens sachent que le vrai n'est qu'un, et que les voies menant au faux, à l'innovation, aux fausses croyances, sont diverses et variées. Il ne faut pas les suivre. Qu'est-ce qu'il faut suivre alors? Il faut suivre la compréhension des pieux prédécesseurs. Allah Azza wa Jalla l'a dit, « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ » et quiconque fait scission d'avec le messager, c'est-à-dire arrête de suivre le messager, « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى » après que la guidée lui a été clarifiée, « وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ » et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Qui sont les croyants cités dans ce verset quand le verset est révélé? Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a aucun doute sur ça. Et qui suit un chemin autre que celui des croyants, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا, nous le laisserons s'en remettre à ce vers quoi il s'est détourné, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ, nous le brûlerons dans la géhenne, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, et quelle mauvaise demeure. Allah Azza wa Jal dit aussi, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, s'ils ont croyance en la même chose en laquelle vous avez eu croyance, ils seront alors guidés. À qui Allah parle, subhanahu wa ta'ala? Aux sahaba. Si les gens adhèrent à la croyance des sahaba, ils seront guidés. Et s'ils n'y adhèrent pas, ils seront égarés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a avertis des divisions qui ont pris naissance dans la communauté avant même qu'elles n'arrivent, par souci de conseils qu'il porte à sa communauté. Et donc, quand les savants de l'islam ont vu ce grand nombre d'innovations augmenter les uns après les autres, les unes après les autres, ces noms de sectes, ces noms de mentors, de guides spirituels, même quand il dit qu'il est soufi, dans le soufisme, il dit qu'il est Tijani, ou alors qu'il est Qadiri, et puis le Tijani va te dire la religion des Qadiri n'est pas la nôtre. Le Qadiri va dire la religion des Tijani n'est pas la nôtre. Qu'est-ce que va faire ce pauvre musulman qui n'a pas d'outils pour comprendre et qui entre dans une mosquée, dans un lieu de culte, il voit des gens aux pratiques différentes et variées, il ne sait pas comment distinguer. Comment on va l'appeler à la vérité? On va lui dire ce qu'il faut suivre, c'est la compréhension des pieux prédécesseurs. Ces pieux prédécesseurs qui ont été appelés par Allah, tabaraka wa ta'ala, al-muslimoun, sont ceux qui ne divergeaient pas dans leur croyance. C'est eux qu'il faut suivre. Le verset, il a été révélé sur ces gens-là. Et ce n'est qu'après eux que tous ces nouveaux noms sont apparus. Tel secte, tel groupe, telle idée, tel penseur, tel imam, tel shir, tel... Ce n'est qu'après que ces choses-là sont venues. Donc il faut suivre le Coran et la Sunna, mais les comprendre avec la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs qui ont été appelés par Allah Azza wa Jal wa sammakum al-muslimin, les musulmans. Certains vont dire, mais comment reconnaître cela? La réponse, c'est ceux que l'on appelle as-salafiyoun, c'est-à-dire ceux qui suivent les salafs. Les salafs, ce sont les premiers musulmans. Le mot salaf voulant dire les prédécesseurs, du verbe salafa qui veut dire mada, passé, précédé. Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a châtié Pharaon, il a dit qu'il en a fait un salaf. Wa salafan. En parlant de Pharaon, il en a fait un salaf pour ceux qui viendront après. C'est-à-dire, là c'est le sens linguistique qui est voulu, c'est-à-dire qu'il en a fait une leçon passée. Pour tous ceux qui voudront suivre la même voie que celle de Pharaon, ils ont déjà une leçon qui est passée. Le mot employé, c'est salaf. Quand le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit à son épouse, ni'ma salaf analaki, quel bon prédécesseur que je suis pour toi, rapporté par Al-Bukhari juste avant de mourir. C'est-à-dire, modèle passé à suivre. Donc quand on dit le salafi, nous parlons ici scientifiquement. En dehors de tous les faux messages qui sont véhiculés, les fausses accusations, nous, ce qui nous incombe, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'Allah veut. Ce que les gens disent n'a pas d'importance pour nous. Ce que l'on veut, c'est plaire à Allah. La définition de la salafia, c'est-à-dire la voie des pieux prédécesseurs, c'est celle-ci. C'est de suivre le Coran et la Sunna et d'avoir la bonne compréhension des textes. Celle des pieux prédécesseurs. En dehors de tout ce qui est dit, de tout ce qui est imputé à la salafia faussement, de la voie des khawarij, de la voie des attentats, de la voie des terroristes, de la voie de la violence, de la voie de l'injustice, de l'oppression, etc. Ce qui est totalement faux. Et donc, ces gens-là suivent cette voie, celle d'Allah Azza wa Jalla. Des personnes diraient, pourquoi vous donnez-vous cette appellation alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Huwa sammakumul muslimina min qabl » C'est lui qui vous a nommé musulman avant. La réponse est que certes, Allah nous a donné ce nom, subhanahu wa ta'ala. Et quand il a donné ce nom, il n'y avait pas d'autre nom. Il n'y avait donc aucun besoin de se distinguer par un autre nom. Car tous étaient musulmans, musulmans comme Allah l'entend, comme Allah le veut, avec la bonne croyance. Mais dès que les sectes sont apparues, et que l'un dit suivre tel fondateur ou tel penseur, et l'autre telle idéologie, telle croyance, telle autre, et les uns se taxent, et les uns taxent les autres, soit d'hérétiques, c'est-à-dire d'innovateurs, voire même d'apostats, de mécréants, etc. Il a fallu nettoyer tout ça. Il a fallu montrer aux gens la voie d'Allah, Azza wa Jal. C'est avec cette appellation, As-Salafiyya. Donc, on peut délaisser cette appellation quand les autres des appellations seront délaissées. Et quand tout le monde suivra l'islam authentique, on n'aura plus besoin de donner cette appellation. Mais dès lors que ces autres appellations qui sont dans le faux existent, il faut une appellation qui soit dans le vrai. Et il n'y a aucun mal à cela. Un point important, l'appellation n'est pas suffisante. Quand on parle de salafia, il n'est pas suffisant de dire, mais il faut l'être. Et ça commence avant tout par la croyance authentique. La croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala, au tawhid, au nom et aux attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et à tout ce qui va découler de cette croyance comme action, et après, par la suite, comme comportement qui vont découler de cette croyance authentique. Ainsi, sortir de l'appellation islamique amène à la division. Amène à la division. Le Cheikh Salah Al-Fawzan dit, quelle est la milla, c'est-à-dire la religion de notre père Ibrahim? C'est le tawhid, c'est le monothéisme, l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la sincérité envers Allah et de se désavouer de toute forme de polythéisme. هذه دعوة الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إلى الانقياد بالعبادة وترك عبادة ما سواه. Tous les messagers y ont appelé. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Dans le sens des deux versets, et nous avons envoyé à chaque communauté un messager leur disant adorez Allah, éloignez-vous du tarout. Le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah de manière globale. Dans l'autre sens du verset rapproché, et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans lui révéler, nulle divinité ne mérite réellement l'adoration, excepté moi, adorez-moi donc. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, nous dit, عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح لحديث الحارث لا شريك الله لغيره dans lequel le prophète عليه الصلاة والسلام dit آمركم بخمس الله أمرني بهن. Je vous ordonne cinq choses qui m'ont été ordonnées par Allah, subhanahu wa ta'ala. Avant même d'entrer dans ces cinq choses, cette phrase-là, je vous ordonne cinq choses qui m'ont été ordonnées par Allah, est une preuve claire montrant que le Coran et la Sunna sont inséparables. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous ordonne cinq choses. Et ce sont des choses qui ont été ordonnées par Allah. Tabaraka wa ta'ala. On ne fait pas de distinction entre le Coran et la Sunna. Pour cela, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, une femme est venue le voir. Et concernant le hadith où le prophète, alayhi salatu wa salam, dit qu'Allah maudit celles qui se mettent des mèches, qui se font faire mettre des mèches jusqu'à la fin du hadith. La femme a dit à Abdullah ibn Mas'ud qu'elle a lu tout le Coran sans voir la malédiction d'Allah citée ici. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agré, lui a dit, si tu avais lu le Coran comme il se doit, tu l'aurais trouvé. Car Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et donc, c'est-à-dire, cette chose-là, il nous l'a interdite. Donc, c'est Allah Azza wa Jal qui nous l'a interdite. Il n'y a donc pas de différence entre le Coran et la Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que les hadiths sont authentiques. Ils sont comme le Coran. Donc, cinq choses ont été citées ici, et celle qui va concerner le chapitre, c'est Wal Jama'a. Et je vous ordonne de rester avec la société. De rester avec le groupe, la société musulmane. De ne pas s'en isoler. Car quiconque contredit le groupe, ne serait-ce que d'un empan, il aura détaché son cou de l'islam. Sauf s'il s'en repent. Et quiconque s'appelle par des appellations de la jahiliya, il fera partie des gens du feu. Des gens agenouillés dans le feu. Un homme a dit, ô messager d'Allah, même s'il accomplit la prière et jeûne, le prophète, alayhi salat wa salam, dit, même s'il accomplit la prière et jeûne, appelez-vous par l'appel d'Allah par lequel il vous a nommé les musulmans, les croyants, les serviteurs d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, ce qui est voulu par al-jama'a, le groupe, wa hiya an talzama jama'at al-muslimin, wa la tashudha anhum. لأن الجماعة عصمة ولأن كونك مع الجماعة فيه قوة وعصمة لك. C'est la société musulmane. Il ne faut pas s'en isoler. Car dans le groupe, il y a une protection. Quant au fait de s'isoler, c'est un grave danger. Et il a raison. Et c'est le cas des Khawarij, notamment, qui sèment le trouble, le désordre, la corruption sur terre, qui assassinent des innocents, qui commettent des attentats au nom de l'islam, alors que l'islam en est innocent. Comment ces gens-là ont commencé? Ils ont commencé par l'isolement. Ils se sont isolés. Et ce n'est pas dans les mosquées qu'ils ont appris ces choses-là. Dans une mosquée, on n'apprend pas ce genre de choses. Ils ont appris ces choses-là quand ils se sont isolés des mosquées, quand ils se sont isolés du groupe des musulmans, quand ils se sont isolés des gens de la sunna, et ils ont été dans les réseaux sociaux. Là, ils se sont détruits et ils ont détruit les autres. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, nous met en garde contre cet isolement qui est mauvais, qui est interdit par Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit, soit avec le groupe des musulmans, soit avec le détenteur, l'autorité des musulmans, ne t'en isole pas. Quant à celui qui en sort et qui désobéit à l'autorité, il aura détaché son coup de l'islam. Quand on dit il aura détaché son coup de l'islam, ça ne veut pas dire qu'il sort, il devient un mécréant. Mais il s'est détaché des principes de l'islam. Et dans l'autre hadith, man faraqa al-jama'ata shibran famata famitatun jahiliya. Quiconque se sépare du groupe, ne serait-ce que d'un empan. C'est ça un empan. Ce qui sépare, shibr c'est un empan, ou alors, ala kulli hal c'est une petite distance, et qui meurt dans cet état, ça sera alors une mort de la jahiliya. Et la jahiliya, c'est l'ère pré-islamique. Souvenez du livre Masailu Jahiliya qu'Allah nous a facilité d'étudier ici. Voilà dans quel état il meurt. Wal'iyadu billah. Il est donc obligatoire aux musulmans de ne pas s'isoler du groupe des musulmans. Puis, la cinquième chose dans le hadith, وَمَنْ دَعَى بِدَعْوَ الْجَاهِلِيَّ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَى جَهَنَّمْ. Et quiconque s'appelle par une appellation de la jahiliya de l'ère pré-islamique fera partie des gens du feu. Le musulman doit se désavouer totalement de toute la jahiliya, de toutes les pratiques relevant de l'ère pré-islamique avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas ressembler aux gens de ces pratiques. Et quand on dit al-jahiliya, on parle de l'ère précédant l'arrivée du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'il est arrivé, la jahiliya de manière absolue a disparu. Mais il reste dans la communauté des restes de la jahiliya. On ne peut donc pas dire ils sont dans la jahiliya, mais on peut dire ils ont, pour certaines personnes, une part des restes de la jahiliya. Car quand le Coran a été révélé et la sunna, la jahiliya absolue n'existe plus. Mais il est possible de trouver des restes chez des personnes et d'autres chez d'autres personnes. Comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, arba'un fi ummati min amri al-jahiliya. Quatre choses dans ma communauté font partie de la jahiliya. Parmi les choses, il cita al-niyaha ala al-mayyit. Les lamentations sur le mort. Les lamentations sur le mort. Le fait d'exagérer dans les pleurs, de s'opposer au décret d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quiconque fait une de ces choses-là aura commis une des choses de la jahiliya. De même, quand un compagnon a appelé un autre, Yabna Saouda, ô enfant de la noire, sa mère étant une femme noire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et lui a dit, a'ayyartahu bi ummi, l'as-tu dénigré par sa mère? Innaka mru'un fika jahiliya. Tu es une personne en laquelle il y a de la jahiliya. Le prophète n'a pas accepté cela, sallallahu alayhi wa sallam. De même, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, le fait de se fanatiser pour un clan, le fait de se fanatiser pour sa tribu, cela est blâmable. Et ça contredit justement l'appellation islamique qu'Allah nous a donnée. Aujourd'hui, tu entends mosquée de tel pays, mosquée des gens de tel pays, mosquée des gens de telle tribu. Où est la mosquée d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Où est la mosquée de l'adoration d'Allah? Où est la mosquée de l'islam? Où est la mosquée où c'est Allah qui est adoré? Et c'est le prophète, alayhi salatu wasalam, qui est suivi. Aujourd'hui, tu entends musulman, mais soufi. Musulman, mais tidjani. Musulman, mais qadiri. Musulman, mais chiite. Musulman, mais frère musulman. Musulman, mais tabliri. Musulman, mais telle chose. D'où est-ce que tout cela vient? Dans le Coran, Allah Azza wa Jal ne nous a rien demandé de tout cela. Ni le prophète alayhi salat wa salam. Ce qu'il faut suivre, c'est l'islam. Et l'islam, c'est ce qu'Allah a légiféré, subhanahu wa ta'ala. Et cet islam, c'est celui des sahaba. Ils ont été éduqués par le prophète alayhi salat wa salam. Ce sont ses compagnons. Qui d'autre qu'eux pourra nous expliquer l'islam, nous expliquer tafsir al-Qur'an, les causes de révélation des versets, les explications des sens des versets, les explications de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui d'autre qu'eux est capable de nous donner une explication meilleure que la leur? C'est impossible. Autrement, cela reviendrait à dire qu'Allah n'a pas été sage lorsqu'il a choisi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vivre avec lui et pour l'accompagner. Ainsi, lorsque les musulmans se sont détachés de ses compagnons, de leur compréhension, ils ont formé des groupes qui se sont basés sur des idéologies, des clans, des origines, des cultures, des pensées, la philosophie et autres, et cela a divisé la communauté et a fait tout ce qu'Allah ne veut pas, subhanahu wa ta'ala, comme division. Il faut donc que les musulmans reviennent à la source originelle, le Coran, la Sunna, et en les comprenant à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça que l'on appelle un salafi. Loin de tout ce qui est faussement dit ici et là, que ce soit dans les médias ou autre. Salafi, c'est un musulman qui suit le Coran, qui suit la Sunna et qui s'efforce de rejeter le shirk, le polythéisme, de rejeter la bid'a, l'innovation, et d'avoir la compréhension des textes que le prophète alayhi salat wa salam a enseigné à ses compagnons. Ça ne va pas plus loin que ça. Ainsi, tous ces esprits de clan, que ce soit pour son pays, son origine, sa culture, sa langue, que ce soit pour telle et telle chose, sa croyance, alaykoum salam, tous ces esprits de clan sont totalement blâmés par Allah, subhanahu wa ta'ala, et cela nous fait sortir de l'appellation islamique qu'Allah nous a donnée. Quant aux musulmans, aux croyants, il revient à la vérité où qu'elle se trouve. Il s'y soumet. Si la vérité est avec la personne qu'il aime, avec son groupe, avec son origine, avec sa tribu, son village, il la suit. Si la vérité est ailleurs, il la suit. Car ce qui lui plaît, c'est de plaire à Allah, Azza wa Jal. À quoi cela sert de suivre autre chose pour le regretter devant Allah? Et très nombreux sont les gens qui suivent le faux en sachant que c'est faux, mais par peur des blâmes, par peur de « on va me dire dans mon village, on va me dire dans mon pays, mes cousins vont me dire, mes oncles vont me dire », alors ils se taisent et ils marchent sur le faux. Subhanallah. Ces gens-là ne te seront d'aucune utilité devant Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah ne t'a pas demandé de te réclamer de telle et telle chose, à part l'islam. D'ailleurs, vous savez que Al-Muhajiroun et Al-Ansar sont des compagnons. Al-Muhajiroun, ceux qui ont émigré de la Mecque à Médine, et Al-Ansar, ceux qui les ont accueillis à Médine. Et ce sont des appellations retrouvées dans le Coran. Al-Muhajiroun ou Al-Ansar. Mais que s'est-il passé un jour? Deux jeunes se sont disputés. Un faisait partie des Muhajiroun et l'autre des Ansar. Un habitant de la Mecque qui est venu immigrer à Médine et un habitant de Médine. Ils se sont disputés au point où l'un s'est mis à appeler les muhajirun, les gens de son origine. Et le second a agi de la même façon. Il a appelé les gens des Ansar, les gens de son origine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et leur a dit, Abida'wa al-jahiliya, vous appelez par l'appel de la jahiliya, wa ana bayna adhurikum, alors que je suis présent avec vous, da'uha fa innaha muntina. Délaissez cet appel, car il est nauséabond. Délaissez cet appel, il est mauvais. Subhanallah. Cet appel qui est cité dans le Coran et la Sunna, et qui est loué par Allah Azza wa Jal, dès qu'il a été utilisé dans un chemin qui va amener à une division, il est détesté par Allah. Tabaraka wa ta'ala. Donc tu vois bien que de dire je suis de telle origine, tel pays, et puis vous n'êtes pas comme nous. Nous, nous sommes et nous faisons de telle et telle façon. Vous autres, vous êtes différents de nous. Et tout ce qui nous arrive, c'est à cause de des gens de telle origine. Non, ce sont plutôt les gens de telle autre origine. Ces appellations sont interdites par Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans l'islam, il n'y a de différence entre aucun, à part la piété par la piété. On ne fait pas de différence parce qu'il est arabe ou parce qu'il est noir. Il peut être arabe et être le pire des mouchrikoun, le pire des polythéistes. Il peut être noir et être le plus pieux. Être de telle ou telle couleur ne te rend pas intelligent, ne te rend pas pieux, ne te rend pas proche, ni aimé d'Allah, Azza wa Jal. Mais ce qui te rend aimé d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ce qui t'élève, c'est quand tu t'élèves par l'application de l'islam. Et c'est par l'appellation de l'islam. Et ne pas dire, ces gens-là ne sont pas comme nous, c'est ce qui amène à la division. Wal'iyadu billah. Tout cela est interdit. Il y a plusieurs versets cités par le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, appuyant l'interdiction de tout ce qui relève de la jahiliya. Allah Azza wa Jal a dit, وَلَا تَبَرَّجَنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, s'adressant aux épouses du prophète alayhi salatu wassalam dans le sens rapproché, et ne vous exhibez pas à la manière de la jahiliya. Également, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ, ils ont une opinion d'Allah différente de la vérité, l'opinion de la jahiliya, quand ils pensaient qu'Allah n'allait pas leur porter secours. Subhanahu wa ta'ala. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ, lorsque les gens qui ont mécru eurent dans le cœur الْحَمِيَّةَ, l'esprit de clan de la jahiliya. Donc Allah a blâmé cet esprit-là. Pareil dans le jugement. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ, est-ce le jugement de la jahiliya qu'ils recherchent? Nous sommes des musulmans, nous dit le Cheikh Al-Fawzan. Allah nous a honorés par l'islam. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit, نَحْنُ أُمَّةٌ أَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, nous sommes une communauté renforcée par Allah, par l'islam. فَمَهْمَ ابْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ, tant que l'on recherche la izzah, à être renforcé, dans autre que l'islam, Allah ne fait que nous avilir et nous rabaisser. La izza est dans l'islam. Allah Azza wa Jalla a dit, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, et à Allah revient la izza, ainsi qu'aux messagers et aux croyants, mais les hypocrites ne savent pas. Voilà dans quoi le musulman doit chercher sa fierté. Dans la soumission à Allah, tabaraka wa ta'ala. Car demain, tu es seul dans ta tombe. Tu es seul face à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, ce n'est pas ton origine, ta culture, ton groupe, ton idéologie, ton clan, ni rien de tout cela qui te sera utile. Mais ce qui te sera utile, c'est ton suivi de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui te sera utile. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: wa man da'a bi da'wa al-jahiliya fa innahu min jutha jahannam. Et quiconque s'appelle par une appellation autre ou alors par une appellation de la jahiliya fera partie des gens punis et châtiés au feu. Et c'est une lourde menace pesant sur ces gens-là, nous dit le Cheikh Al-Fawzan, dont la cause est de s'être donné une appellation autre que celle de l'islam. Et ça entre dedans tout ce que l'on a dit. Lorsque l'on se rattache à un groupe, à un clan, à une idéologie, à un manhaj, à une méthodologie, etc., autre que celle de l'islam authentique, ça rentre dans ce hadith sans le moindre doute. Même si la personne prie et jeûne, appelez-vous par l'appel qu'Allah vous a donné, musulmans, croyants, serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur, rahimahullah, nous dit: wa fi sahih man faraqa al-jama'ata qida shibrin famata famitatun famitatuhu jahiliya wa fihi abi da'wa al-jahiliyati wa ana bayna adhhurikum. Dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, quiconque s'isole du groupe de la société, ne serait-ce que d'un empan, et meurt, sa mort sera une mort de la jahiliya. Et dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: est-ce par l'appel de la jahiliya que vous vous interpellez alors que je suis présent avec vous? Et donc ce hadith à une histoire qui a été citée lorsque deux jeunes se sont disputés et chacun a appelé les gens de son origine. Le prophète alayhi salatu wassalam les a blâmés. Wa qala Abu al-Abbas ay Ibn Taymiyyah rahimahullah: kullu man kharaja an da'wa al-islam wal-qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqah fa huwa min aza'i al-jahiliyyah. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est lui qui est appelé Abu al-Abbas, c'est sa kunya, a dit: tout ce qui sort de l'appellation de l'islam et du Coran, que ce soit une affiliation, un pays, une origine, un madhab, une école de pensée, une tariqa, une voie, tout cela relève de la jahiliya. Tout cela relève de la jahiliya. Il est un devoir aux musulmans de se réclamer de l'islam et du Coran et de ne pas se rattacher à une tribu, un pays, dans le sens du fanatisme. Tu es dans le droit de dire que tu viens de tel pays, etc. Ce n'est pas ça qui est voulu. On parle dans le sens du fanatisme, c'est-à-dire d'en faire un outil pour te distinguer de l'autre, voire même te sentir meilleur que lui, et te croire dans la vérité, dans le bon, alors que lui ne l'est pas. Cela est interdit. Ce n'est que par l'islam que l'on peut avoir cet agissement. Le cheikh a dit: « Amma baqiyatu biladil muslimin fa kulluha sawa. » Tous les pays musulmans sont égaux. كانت سواء كانت من المشرق او او في او في المغرب. Que ces pays viennent de l'Orient ou de l'Occident, peu importe. وكذلك لا يعتد المسلم بالنسب او بالبلد او بالجنس فيقول انا عربي وانا اعجمي هذا لا يجوز ما دام الاخر مسلما فهو اخوك. Tant que l'autre est musulman, il est ton frère et il n'est pas permis de dire je suis arabe ou alors je suis de tel pays, je suis... Ça ne fait pas de toi quelqu'un de pieux chez Allah. Tant qu'il est musulman, il est ton frère, tu ne dois pas te distinguer de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: innamal mu'minuna ikhwa. Seuls les croyants sont des frères. Ou alors, le fait de se rattacher à un madhhab, à une école, comme l'école de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abu Hanifa, c'est-à-dire le fait de se rattacher au point de manifester l'alliance et le désaveu. Car il est connu que, en fonction des points géographiques où se trouvaient les savants, ils ont étudié la jurisprudence islamique et l'ont enseignée, d'après l'école qui régnait dans cet endroit où ils ont vécu, sans pour autant se fanatiser pour cette école. Dès lors que l'on se fanatise pour cette école, et que l'on manifeste l'alliance et le désaveu, celui qui est dans notre école est bon et comme nous, il est avec nous, celui qui ne l'est pas, il n'est pas avec nous, il est délaissé, il n'est pas écouté, il est mauvais, etc. Là, ça devient blâmable. Et ça, ça fait partie de Da'wa al-Jahiliyyah. Il n'y a pas si longtemps que ça, à la Mecque, il y avait 4 imams. L'imam de l'école Hanafiya, l'imam de Malikiya, l'imam Hanabila et l'imam de Shafi'iya. Et quand il y avait l'heure de la prière, chaque groupe priait derrière l'imam de son école. Puis quand le roi Abdul Aziz, qu'Allah lui fasse miséricorde, le père des rois actuels, lorsqu'il est arrivé et qu'il a constaté cette division, il a réuni les savants et il leur a dit, j'ai une question à vous poser, vous qui êtes connaisseurs. Est-ce que c'est ce qu'Allah nous demande de faire? Ou Allah nous demande de prier derrière un imam? Ils ont tous dit, Allah nous demande de prier derrière un imam. Il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, vous priez tous derrière un seul imam. Rahimahullahu ta'ala. Cet homme qui a cassé des tombeaux de sa main. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Tayyib. Et donc, il est interdit de s'affilier dans le sens du fanatisme à une école, à un groupe, à tout cela. Tout ça, ça fait partie de la jahiliya, ou à une voie, une tariqa, comme le soufisme, comme celui qui dit, je suis Naqshbandi, je suis Tijani, je suis Burhani, je suis Qadiri, et autres. Et il y a énormément de voies de soufisme. Cela n'est pas permis. Nous sommes musulmans, nous devons suivre l'islam. Ça n'est pas l'islam. C'est la da'wa de la jahiliya, c'est l'appel de l'ère pré-islamique. Et ça fait partie de la jahiliya. L'auteur conclut ce chapitre. « Bel, lamma ikhtasama muhajiru muhajiriyun wa ansari, faqala al-muhajiri, ya lal-muhajirin, faqala al-ansari, ya lal-ansar, qala sallallahu alayhi wa sallam, abi da'wa al-jahiliya wa ana bayna adhurikum, wa ghadiba lidhalika ghadaban shadida. » Le prophète alayhi salatu wasalam s'est mis en colère très fortement quand il a entendu ces deux personnes, chacun appelant les gens de son origine pour le secourir. On s'arrête ici, inshallah ta'ala, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.